Les armes infrasoniques et ultrasoniques par Joe Cobb, 2019. Ce sont des armes qui emploient le son pour causer des blessures, réduire l'adversaire à néant et tuer. Ces armes fonctionnent avec des infrasons ou des ultrasons. S'il y a encore des sceptiques pour nier que les infrasons et ultrasons existent, voilà un texte qui va les faire changer d'avis. Les armes basées sur les ultrasons tuent une personne comme une onde millimétrique qui fait résonner l'eau des cellules jusqu'à ce que cette eau entre en ébullition, exactement comme un four micro-ondes. Quant aux infrasons en dessous de 20 Hz, ils s'attaquent au cerveau et eux aussi enclenchent des résonances dans celui-ci, ce qui détraque le système biologique complètement. Maintenant, vous aurez une petite idée de la façon comment l'infrason détraque l'humain à partir des émissions éoliennes et provoque entre autres le fameux syndrome éolien. D'où vient cette arme fatale? On va le découvrir dans un instant. Pourquoi a-t-il trouvé son chemin, a-t-elle trouvé son chemin parmi des populations civiles au lieu de rester cantonnée au domaine militaire? Point d'interrogation. C'est que la devise de tous les États mondiaux, c'est le contrôle, le pouvoir sur les citoyens dissidents. On part aux États-Unis d'Amérique pour étudier sa genèse. Le département de la Défense a démontré l'utilisation des émetteurs infrasoniques pour calmer les manifestants de l'action Occupy Wall Street. Voici la description. Le dispositif génère des sons de l'ordre de 7 Hz. Ce qui en sort émerge des tuyaux et s'est relié à un ensemble d'émetteurs. À cette fréquence-là, les armures et les murs en ciment, les maisons laissent passer les ondes soniques et il n'y a pas de défense contre ces ondes. C'est bien ce qui se passe avec les éoliennes. Ces armes sont aussi efficaces que les LBD, ou bien, si l'on veut encore plus efficace, car l'infrason, comme chacun sait maintenant, est capable de voyager à grande distance. Si vous avez lu la recherche de Omar Marcillo, il y a trace de l'infrason à 126 km d'un parc éolien. Et ça, c'est mesurable. Oublions les 15 kilomètres de la recherche finnoise. C'est donc que son potentiel pour le massacre de masse est énorme. On a décrit ces armes comme des balles soniques ou des grenades soniques, des mines soniques ou encore des canons soniques. Il y en a qui envoient un faisceau dense de sons. Ceux-là sont basés sur les ultrasons. D'autres envoient un champ magnétique de sons. Ceux-ci sont basés sur les infrasons. Quand on questionne les militaires à ce sujet, ils disent que ces armes ne sont pas fatales. En anglais, c'est non-lethal. Ce qui équivaut à dire que les mitrailleuses sont non-fatales jusqu'à ce qu'elles crachent. L'infrason ne perd pas de son intensité quand il voyage loin. L'intensité demeure pratiquement inchangée depuis la source. À cause du fait que les infrasons adhèrent au sol, on ne peut les détecter sans dispositif spécial. Quoique Google Play propose déjà un détecteur d'infrasons dans une application gratuite avec graphique, fréquence de l'infrason, son origine géographique, le graphique en cascade, etc. C'est très élaboré, hein, même sur Google Play, la petite application. Et ça s'appelle Infrasound Detector, détecteur d'infrasons. Donc, c'est une arme de destruction massive qui détruit le vivant, quel qu'il soit. Si on l'utilisait dans une guerre, la bataille serait vite finie avant que les soldats aient compris qu'elle a commencé. Comment savoir à l'avance qu'une attaque infrasonique se prépare? Quelle protection envisager? Des tranches entières de population peuvent être annihilées d'une façon lente et terrible, car l'agonie se prolonge. Donc l'infrason procède par une résonance des organes, et en général, ces organes-là sont ceux qui sont trouvés dans le cerveau. comme nos organes varient en taille et en configuration, les effets peuvent être dissemblables d'une personne à l'autre. Un enfant ou un adolescent percevra différemment qu'un adulte et un jeune adulte d'un adulte plus âgé. L'exposition qui résulte des armes infrasoniques peut être qualifiée d'intense, de sévère, et la stimulation est dangereuse. Même une résonance de courte durée peut engendrer un dommage permanent au cerveau. Les ravages neurologiques que cause l'exposition aux basses fréquences chez les humains pour plus de 15 minutes ont déclenché des problèmes immédiats et permanents dans les tissus du cerveau. Les symptômes ressemblaient à ceux qui ont souffert de traumatismes crâniens. La théorie, c'est que l'exposition prolongée aux basses fréquences a affecté mécaniquement le tissu du cerveau et a produit une encéphalopathie. La source de ceci est le chapitre 5 de Evil Winter 2001-2002. L'acoustique dans la guerre, The Acoustics of War, par Daria Weisman, rédactrice à La Recherche. La Recherche à New York Press. Au début de 1990, les États-Unis se sont mis à analyser leur image dans le monde. Les deux guerres mondiales et le Vietnam étaient oubliés, mais la guerre froide avec l'URSS les avait placés dans une posture défensive. Maintenant que l'URSS s'était dissoute toute seule, les États-Unis ne songeaient plus du tout à une guerre nucléaire. Les militaires voulaient une nouvelle arme dans leur arsenal en 1991. Le Pentagone a émis une directive pour tester une nouvelle catégorie d'armes non fatales, non-lethal. Et je crois en français, c'est aussi, ce ne sont pas des armes létales. Ces armes handicapaient leurs cibles de telle façon que la mort ou un handicap sévère n'était plus à considérer. En 1996, 37 millions de dollars furent investis pour la recherche des armes non fatales. La Convention de La Haye de 1907 proscrit l'usage d'armes, de projectiles ou de matériaux susceptibles de causer une souffrance non nécessaire. Mais une autre question demeurait dans les esprits des militaires et de leurs chercheurs. C'était celle-ci. Était-il possible de projeter un son à un décibel précis qui causait de la douleur, mais sans aucun handicap permanent? Ils se sont mis à réfléchir là-dessus. Il y avait des exemples tirés d'anecdotes où, à une fréquence définie, l'infrason pourrait liquéfier les entrailles et les réduirait à une bouillie palpitante et diarrhéique. En 1999, Human Rights Watch, l'organisme qui ausculte les droits de l'homme dans chaque pays, insista dans son mémorandum pour qu'un nouveau protocole soit créé en ce qui concerne les armes soniques et qu'on l'ajoute à la Convention sur les armes conventionnelles. Il existe des prototypes acoustiques et plusieurs ont vu du service. Et alors donc, c'est un livre qui s'appelle Riot Control, le contrôle des émeutes en 1981. Le colonel Applegate présenta un prototype, The People Repeller, ou si l'on veut en français, celui qui repousse le peuple. Cela ressemble à une matraque de la police en Angleterre et cela émet un son aigu et pulsé de 120 décibels à 30 pas. Il y a aussi le Compression Air Device, un dispositif à air comprimé qui émet de l'énergie à une basse fréquence définie issue d'un moteur à combustion à sa base et on dirige le son dans un tube. C'est le Ring Vortex Cannon. Le canon envoie de l'énergie acoustique et kinétique sous la forme d'un infrason. Une onde de choc s'en dégage, combinée avec une pulvérisation chimique toxique. Il y a un vortex qui voyage à 100 miles à l'heure et la cible est méchamment commotionnée. Évidemment, on a eu en mémoire le taser en Europe, un courant électrique très fort qui jette l'adversaire à terre et lui fait voir 36 chandelles. J'ai aussi vu des gens qui mouraient d'arrêt cardiaque à cause du taser en Angleterre. Les armes non fatales peuvent se transformer en armes plus que fatales, selon les mots de Harvey Sapolsky, qui est le directeur des études de sécurité au Massachusetts Institute of Technology, MIT, et le premier à avoir examiné la question. Joe Cobb a parlé à Sapolsky. Joe Cobb, c'est l'auteur de cette recherche. Il a parlé à Sapolsky et il lui a raconté plusieurs anecdotes à ce propos, comme le fait que les Israéliens retireraient le caoutchouc de leurs balles ou que les Américains se servaient de lasers pour éclairer leurs cibles, c'est-à-dire des Somaliens, quand il y a eu l'occupation en Somalie. Donc, Joe Cobb a une discussion avec Sapolsky. Pour Sapolsky, l'acoustique amène le processus d'intervention en première ligne. Deux points. Sapolsky qui est maintenant cité. On se demande si la situation légitimise une telle intervention. Je pense qu'il vaut mieux laisser des présents à vos adversaires. Par exemple, sur la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, laissons toutes sortes d'objets qui ressemblent à des emplettes de supermarché. C'est sa stratégie. Des choses qu'ils n'ont jamais encore vues. Envelopper les objets très bien pour qu'ils passent un bon bout de temps à les dérouler, c'est la logique derrière les mines. Donc ça, malheureusement, ça a déjà été employé. Alors Coates écrit dans la Non-Lethal Police Weapons, les armes policières non fatales en 1972, dans la revue de technologie, que la recherche sur les armes avec des budgets réduits a largement pris la forme d'efforts spéculatifs de la part d'organisations commerciales pour un marché incertain. Le résultat est que de nouveaux matériaux sont introduits assez fréquemment, et ceci sans test de sécurité ou d'efficacité. Et oui, c'est bien dommage pour les émeutiers, parce que c'est la gabegie, il n'y a pas de test de sécurité. Alors maintenant, il y a un nouveau chapitre qui s'appelle « Histoire de la découverte des infrasons ». Alors, la découverte des infrasons date de 1957 par le docteur Vladimir Gavro, qui s'intéressait particulièrement au développement d'automates qu'on contrôle à distance et de prototypes robotiques. Avec son équipe, ils développèrent toutes sortes d'objets pour l'industrie et l'armée. Au cours de leurs travaux sur les robots soldats dans les champs de bataille et les robots ouvriers dans l'industrie, ils découvrirent qu'un ventilateur électrique produisait des infrasons avec une telle amplitude que l'oreille de son assistant s'était mise à saigner. Les infrasons qui font saigner l'oreille. Intrigué, Dr Gavro se mit aussitôt à l'ouvrage en testant le dit ventilateur avec différentes intensités. Il changea le ressort et découvrit qu'une tonalité nouvelle émergeait. Des résonances infrasoniques variées se faisaient entendre dans tout le bâtiment. Si on fermait les fenêtres, les symptômes de nausée et de panique disparaissaient. Quand on ouvrait les fenêtres, la nausée reparaissait. Le docteur Gavro avait la clé des explosifs naturels qui créent l'infrason. Il se mit à penser à la défense et aux militaires. Les effets explosifs du coup de tonnerre issu de la nature, générateur d'infrasons, le conduisirent à penser qu'on pouvait générer artificiellement, c'est là où ça devient dangereux, artificiellement un coup de tonnerre dans un système compact. Mais comment ? Dr Gavro élabora plusieurs dispositifs pour imiter l'accident du ventilateur infrasonique complètement inattendu pour l'équipe. Ils construisirent des tuyaux d'orgue de grande dimension, de 6 pieds de diamètre, 6 pieds de diamètre et 75 pieds de long. On les testa à l'air libre. Ils reposaient sur des murs qui absorbaient le son. L'équipe se tenait à bonne distance. Ils construisirent deux types d'orgues infrasoniques, le premier avec un piston qui envoyait une pulsation dans le tuyau, le second avec un compresseur d'air. La fréquence fondamentale qui résonnait se trouvait entre 3 et 7 cycles par seconde. Le son ne pouvait être entendu, donc un bon avantage pour un système de défense. Mais on les ressentait très bien. Oui, ça me rappelle une présentation de l'acousticien Stephen Cooper après Gavreau, qui soulignait le fait que la sensation des résidents près des turbines des éoliennes, avait la vedette plutôt que l'ouïe, la sensation. L'équipe, donc on revient à Gavreau, l'équipe tout à coup éprouva des symptômes débilitants en face de l'orgue qui émettait ses fréquences depuis quelques secondes seulement. Les vagues de pression montèrent à l'assaut des corps des scientifiques et ils ne purent échapper à la sensation terrible qui les prenait. C'était comme une main géante qui les serrait. La pression venait de tous les côtés à la fois. Ils la nommèrent la main de la mort. Après la pression, vient la douleur, une pression infrasonique. Après la pression vint la douleur, une pression infrasonique intense sur les yeux et les oreilles. Puis le support du dispositif commença à trembler et un grondement effrayant suivi d'un tremblement de terre. Tous les piliers et les jointures du bâtiment se tendirent et se déplacèrent. Un assistant put couper le circuit électrique à temps, même s'il expérimentait les mêmes affres que ses compatriotes. Et évidemment, dans ces cas-là, il faut vite couper le courant. En fait, les infrasons étaient aussi dangereux que de l'énergie nucléaire. Le docteur Gavreau et ses acolytes furent malades le jour suivant. Ces maladies durèrent des heures après qu'on eut coupé le courant électrique. Les assauts infrasoniques sur le corps sont les pires qu'ils soient, parce qu'ils sont silencieux. Docteur Gavreau perdit l'usage de ses yeux pendant des jours. Son équipe aussi. Mais encore plus dangereux, leurs organes furent touchés. Le cœur, les poumons, l'estomac, la cavité intestinale furent agités de spasmes douloureux. Les convulsions musculaires, les torsions et les larmes sont les symptômes typiques de l'exposition infrasonique. Alors là, c'est très important, je répète. Les convulsions musculaires, les torsions et les larmes sont les symptômes typiques de l'exposition infrasonique. Toutes les cavités corporelles mises en résonance absorbèrent l'énergie acoustique déchaînée. Ils y seraient tous restés si l'assistant n'avait pas interrompu le courant. Ils y seraient restés, non, mais tordus de tous côtés par l'onde de choc infrasonique. Ils auraient été mis en miettes, quoi. On n'avait plus besoin de démontrer l'efficacité du démon infrasonique en tant qu'arme de guerre. Ils approchèrent alors le dispositif à pas de loup. La question était alors, comment réfréner le monstre pour que les techniciens ne soient pas attaqués si vicieusement? À quelle puissance fallait-il rabaisser l'engin? Docteur Gavreau commença à revoir les paramètres qui avaient construit sa machine infernale. Son erreur, c'était d'avoir sous-estimé la puissance de l'orgue infrasonique. En fait, il avait fait cela afin de diagnostiquer mieux les effets. Bon, il faut dire que dans ces temps-là, les laboratoires étaient primitifs et les données empiriques les seules qu'on pouvait utiliser. Il fallait voir comment l'énergie infrasonique réagissait sur la biologie humaine et le contexte matériel, le bâtiment du laboratoire. Donc, le docteur Gavreau utilisa cette fois un circuit électrique en miniature. C'est pas découragé. Toutes les dimensions étaient à revoir, y compris la longueur extraordinaire des tuyaux d'orgue. Ils construisirent aussi plusieurs interrupteurs d'urgence qui répondaient à l'onde de pression infrasonique. On pouvait limiter l'intensité en utilisant des interrupteurs barométriques. Dans son but de créer des générateurs d'infrasons compacts et contrôlables, le docteur Gavreau construisit aussi des sortes de clairons et de sifflets au volume varié. C'étaient des cavités plates et circulaires propres à résonner et se terminant par un exutoire sur le côté. En fait, des clones des sifflets de police et des sirènes qu'on entend de temps en temps dans le brouillard. Il réduisit encore leur taille par différentes étapes car on trouva que leur exutoire était trop puissant. Donc, ces sirènes ou ces clairons pouvaient produire 2 kW d'énergie infrasonique à une fréquence de 150 cycles à la seconde. Les sifflets de police étaient simples à déterminer et on se servit d'une formule mathématique. On trouva la fréquence et la résonance du sifflet en divisant son diamètre par la constante numérique de 51. Si on augmentait la profondeur du sifflet, on augmentait aussi son amplitude. Un sifflet de 1,3 m de diamètre produisait une tonalité infrasonique de 37 cycles par seconde. Ce sifflet a ébranlé les murs du laboratoire, ça recommence, et au-delà, quoique son intensité fût moindre que 2 watts de puissance infrasonique. Bon, alors maintenant, j'ai entendu une autre anecdote sur Dr. Gavreau. Il a évidemment usé de son invention dans toutes les occasions possibles et en dehors de son labo, ce qui est un peu dangereux. Il s'est servi de son générateur d'infrasons une fois à un concert. Alors donc on est à un concert, les mélomanes sortaient du concert, terriblement émoustillés et enivrés, des flots superbes de mélodies durant des heures. Le machiavélique Gavreau fit signe à ses assistants et une pulsation infrasonique légère, probablement dans le barème des 0,2 à 0,8 Hz, fut lâchée sur la salle. Je pense que ce barème 0,2 à 0,8 Hz, ça correspond au pic nauséogénique qui a été trouvé par le docteur Kelly un peu plus tard dans les années 80. Subitement, les sourires se figèrent et les conversations s'étiolèrent. Les malheureux mélomanes se frottaient les tempes et grimaçaient. La panique s'installait déjà, la rage, le désespoir, peu à peu, envahissaient la salle. Docteur Gavreau et son équipe déguerpirent peu après. Ils avaient réussi leur expérience, plongé une foule heureuse et confiante dans l'enfer des infrasons et jouir de ce spectacle dérangeant. Les effets des infrasons employés dans les armes soniques. Continue le texte de Joe Cobb. Il y a une forme de dispositif sonique aux USA, c'est le LRAD. Alors, vous avez dû en entendre parler. Le LRAD, c'est le Long Range Acoustic Device. Il a été employé aux protestations pour le G20 à Pittsburgh. La vidéo est encore sur YouTube. On entend une très forte proclamation de la police de l'État qui ordonne à la foule de se disperser, et puis une autre qui avertit les protestataires qu'ils sont en train de violer la loi. En général, un infrason de la magnitude employée par les armes soniques tue ou blesse en faisant résonner les organes des corps avec tant de force qu'il les détruit. Il les secoue jusqu'à destruction. Comme les fréquences infrasoniques décroissent, les symptômes sévères s'accroissent. Plus la fréquence est basse et plus les symptômes soniques s'accroissent. Pensez aux éoliennes. Plus les basses fréquences interviennent et plus les symptômes sont sévères. Le rythme cardiaque s'affole, le pouls monte à 40% de plus et ce ne sont que des préliminaires à ce qui va suivre. La nausée arrive et puis les étourdissements. La peau s'enflamme et le corps tremble. Tout cela à une vitesse de 100 cycles par seconde. Alors vous avez vertige, anxiété, extrême fatigue, s'en suivent, pression sur la gorge et difficulté à respirer. La toux arrive, une pression sur le sternum, l'étouffement, une salivation excessive, des difficultés à déglutir, céphalée, douleur abdominale, tout cela à 60 et 70 cycles par seconde. Après exposition, une grande fatigue saisit le sujet. Certains continuent de tousser pendant une demi-heure ou bien d'autres continuent de sentir leur peau s'enflammer pendant 4 heures. L'acuité visuelle diminue au rythme entre 43 et 73 cycles par seconde. L'intelligibilité est diminuée au taux de 77%. Ça veut dire que vous n'arrivez plus à articuler des facultés normales. L'orientation dans l'espace est complètement bouleversée. Alors là, je vais vous interjecter une anecdote de Robert Rand. L'acousticien Robert Rand, qui fut victime du syndrome éolien pendant qu'il mesurait des parcs, et il a eu une hallucination. Il vit un buisson à 20 cm au-dessus du sol. La coordination musculaire est réduite et l'équilibre aussi. Plus de dextérité manuelle, l'activité intellectuelle est bloquée, l'interférence neurologique est totale, l'action de la médulla est arrêtée, les fonctions automatiques cessent complètement. Alors là, c'est le chercheur Jerzy Vasilatos qui a écrit une biographie de Gavro. L'infrason produit des sensations physiologiques variées qui commencent par des irritations. À une certaine tonalité, l'infrason produit une pression physique. À une fréquence plus précise, la peur et la désorientation. Apparemment, les nazis connaissaient ce principe et l'appliquaient. Les foules de Nuremberg étaient dopées aux infrasons pour déclencher leur hostilité, paraît-il, pour fouetter leur tendance guerrière. À une fréquence précise, l'infrason fait exploser la matière. C'est comme l'ultrason. Les organismes se rompent et se liquéfient. Les créatures des mers usent de cette force pour étourdir et tuer leur proie. L'ingénieur Tesla utilisait des plateformes vibratoires pour donner du tonus aux amis. Ces plateformes vibraient, étant montées sur des supports en caoutchouc. Ah, c'est très curieux. Pendant une minute, c'était très amusant. Le corps se sentait comme régénéré des heures après. Mais un usage excessif pouvait produire de graves maladies et le cœur en prenait un coup. Une anecdote au sujet de ces plateformes vibratoires. Son ami Samuel Clément se sentait si bien sur sa plateforme qu'il refusa d'en descendre. Mais quelques secondes après, il sauta à terre en souillant sa chemise blanche par ses vomissements. Tesla était un fan de l'infrason et il n'arrêtait pas d'en parler aux reporters de sa ville, qui se moquaient de lui, car pour eux, l'infrason n'était qu'un son et rien de plus. Mais ce son faillit faire exploser son laboratoire. Encore un qui explose un laboratoire. Les impulsions infrasoniques étaient si puissantes qu'elles auraient détruit une ville entière. Heureusement, il sut s'arrêter à temps. Pour finir, encore une anecdote de Thomas Walker au sujet des infrasons. Lors de son périple autour du monde, il vit un superbe yacht venir s'ancrer en face d'un bâtiment en briques, à 10 mètres de lui environ. Le yacht avait des problèmes, le moteur diesel avait des ratés. Des mécaniciens montèrent à bord et commencèrent à trafiquer l'engin pour le remettre à un régime normal. Tout à coup, bang! Le yacht générait une énorme vague et le bâtiment en briques en face s'écroulait comme un château de cartes, tandis que mon ami prenait la fuite. Les infrasons du moteur diesel avaient frappé. En conclusion, l'infrason est une force terrible. Ceux qui l'ont amené à l'existence, dont Gavro et Tesla, ont ouvert la boîte de Pandore. À l'heure actuelle, aux États-Unis, il n'est plus resté dans le domaine militaire ou scientifique. Des mafieux s'en sont emparés et torturent qui bon leur semble avec leurs dispositifs portables. Alors là, l'info est dans Dark Government à un moment donné. La police est impuissante. À partir du moment où cette torture sonique existe, on ne peut que maudire les ingénieurs qui ont imaginé les éoliennes qui nous cernent, parce qu'à dose faible mais réelle, elles imitent les armes soniques et font tant de victimes parmi nous. Il est temps de bannir l'infrason industriel de nos modes de vie et de faire pression sur les politiques pour que ce scandale sanitaire cesse avant que l'infrason détruise l'humanité.